Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Vendredi, samedi et dimanche 5, 6 et 7 avril à Saint-Nazaire, ils étaient 800, 700 venus de toute la France, plus une centaine de bénévoles, réunis dans les locaux d'un ancien bâtiment de Pôle emploi, rebaptisé Maison du Peuple et occupé depuis quelques mois par des gilets jaunes. C'est la deuxième fois depuis le début du mouvement en novembre que ce genre d'assemblée a lieu, après celle de Commercy en janvier dernier. Cette fois, ce sont 300 délégations, contre 75 à Commercy, qui sont arrivées, comptant chacune deux délégués et des observateurs, censés représenter dans l'ensemble plus de 10 000 gilets jaunes. Pendant trois jours, il y a des ateliers sur plusieurs thématiques. La stratégie du mouvement occupe une partie des esprits, les actions à mener, comment remobiliser, agir face à la répression, mais aussi la transition écologique, le municipalisme ou encore les institutions européennes et comment se faire entendre auprès d'elles. Pour tous les ateliers, des synthèses sont produites et restituées en assemblée générale plénière. Un texte final a été enfin rédigé et largement diffusé. Les journalistes présents sont accrédités, mais tous ne sont pas accueillis avec le même enthousiasme par les organisateurs. Ceux qui ont la chance d'avoir une pastille jaune sur leur badge de presse sont considérés comme amis. Les autres, comme notre productrice Martine Abbat, ne peuvent pas assister à tous les travaux. Cela ne l'a pas empêché d'essayer de comprendre ce qui se jouait là et de rencontrer des participants dans la Maison du Peuple et sur le parking à côté, où un chapiteau a été dressé et les âgés sont retransmises. Tout de suite donc, à Saint-Nazaire, l'Assemblée des Gilets jaunes par Martine Abbat.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Allez, gilets jaunes, réveillez-vous. Dernier moment pour vous asseoir, s'il vous plaît. On commence dans deux minutes, tous les délégués dans la Maison du Peuple et les observateurs et observatrices sous le chapiteau, s'il vous plaît. On a un gros programme aujourd'hui. Bonjour Saint-Nazaire, bonjour la France, bonjour les gilets jaunes. Bienvenue à la deuxième assemblée des assemblées avec l'équipe de Saint-Nazaire. On est 800 gilets jaunes à être présents. On aurait pu être carrément plus nombreux, on a dû refuser des gens. On a 235 délégations là qui sont avec nous. On s'est retroussé les manches, on a été une centaine de personnes ici sur Saint-Nazaire et alentour à se bouger. Il y avait des murs partout ici. On faisait des AG à 50, ça commençait à être un peu plein. Voilà, là vous, on doit être 400-450 ici. Donc on a pété les murs pour vous accueillir dans notre Maison du Peuple.
Hier, on était en stress total. Et ce qui s'est passé hier, en fait, nous a vraiment beaucoup rassurés parce qu'on s'est aperçu que vous étiez tous porteurs d'une maturité, de travail collectif et d'intelligence collective. Il suffit de vous faire confiance, ça marche. Personne n'a à lui tout seul ou à elle tout seul la solution. Mais tout le monde a un bout du morceau. On a le droit à l'erreur. Le travail va se poursuivre. Et nous sommes là de toute façon pour apprendre. Et enfin, on ne sera pas d'accord sur tout. L'important, ça va être de dégager les convergences et les divergences et d'en garder des traces pour la suite.
Salut tout le monde! Faites chaud! Ok? On va faire quelque chose de difficile, on va travailler en petits groupes de 20-25 personnes, mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Il est 10h15, on mange à midi et demi. Et donc là, est-ce que tout le monde a choisi les groupes de travail dans lesquels il veut aller?
Tout ça, ma foi, c'est de la belle démocratie vivante et surtout éclectique au possible. Moi, je suis de Tarbes, je suis en train de parler avec quelqu'un de l'Essonne.
De l'Essonne, de Villabé.
Et moi, je viens de Vendée, du sud Vendée. Voilà.
Ce qu'on est en train de faire là, c'est on construit quelque chose. Il n'y a que des gens qui réfléchissent ici. Regardez, toutes les opinions sont là. Il n'y a pas de gauchistes ou de fachos ici. Tout le monde est là en train de se parler.
Et ça débat fort, mais c'est toujours constructif, c'est toujours dans le débat d'idées.
Vous voyez, chez les gilets jaunes, la première des violences que les gilets jaunes ont subies, c'est la violence du mépris.
On nous traite de personnes qui ne travaillaient pas, de gueux, d'alcooliques, enfin on a eu toutes les étiquettes de fascistes, de racistes, d'antisémites, enfin Enfin, moi, personnellement, intellectuellement, c'est très dur à vivre. Oui, je prends ça pour une violence. Et c'est une violence. Parce qu'on nous juge, on nous... Moi, personnellement, je le vis très difficilement.
C'est une image,
le mépris de classe.
Ouais.
Le mépris de classe.
Oui, c'est ça.
Totalement. C'est mais alors, qu'il ne devrait même pas y avoir... Il y a ça, il y a des chefs d'entreprise, il y a des artisans, il y a des... Moi, je suis routier, alors au niveau feignant, je veux bien qu'on me reproche quelque chose, mais au niveau d'être feignant, quand on fait 70 heures par semaine, ça fait un peu mal de l'entendre, quoi. Enfin, on nous refuse le RIC, parce qu'en réalité, bah, on est des prolos, on est descendants, on est des gens de rien, on n'est pas assez cultivés, on n'est pas assez éduqués pour avoir cette pensée-là. On ne peut pas réfléchir par nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous faut nos merveilleux représentants. Mais par contre... Des lobbyistes qui viennent prêcher pour leur paroisse, pour leur pétrodollar, etc., eux, par contre, sont suffisamment éduqués, sont suffisamment éveillés pour venir parler, pour venir donner leur avis, pour venir faire des propositions de loi qu'ils transmettent aux députés, et que les députés ne changent pas une virgule, ni un point, ni un tréma, et qu'ils balancent comme ça directement à l'Assemblée nationale. C'est quand même étrange, quand même, comme principe. Le député est censé représenter sa circonscription, représenter le peuple et l'avis, les opinions de sa circonscription. Ce que nous, on fait aujourd'hui ici. Moi, je représente le rond-point de Milly-la-Forêt et les gilets jaunes des alentours. Pierre représente le rond-point de Villabé et des gilets jaunes des alentours. Si nous, on apporte une parole ici qui n'est pas la leur, on sera révoqué et un autre prendra notre place.
Comment ils vont savoir si vous n'avez pas bien porté leur parole selon le mandat
qu'ils vous ont donné ? Parce qu'on filme.
Tout est filmé, tout est retransmis en direct. On a eu un mandat juste pour rapporter la parole et pas pour nous exprimer. C'est-à-dire, je suis obligé par rapport à mon rond-point de dire le rond-point de Villabé, par exemple, ou de Milly-la-Forêt, veut ceci, ils veulent cela. Voilà, c'est tout.
On a fait des votes également, à main levée. Ensuite, on a fait une synthèse.
Alors nous, on n'a pas produit de documents synthétiques parce qu'on a eu un peu de mal à trouver qui allait être disponible, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des gens qui travaillent aussi. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est amener tous nos travaux, tout simplement, pour partager avec les autres groupes quand on a une action qui fonctionne bien localement, pour voir si nationalement ou localement, dans notre localité qui adhérait à notre fonctionnement, de le faire aussi.
Par exemple, c'est quoi une action qui a bien fonctionné pour votre groupe?
Par exemple, c'est les actions de Tracte Vérité. Prendre un sujet, en faire une synthèse très rapide avec des dessins et le diffuser sur les ronds-points, c'est quelque chose qui éveille les gens, qui leur parle de suite. Là, actuellement, on a fait un tract vérité sur la finance et on marque le pourquoi ça a été fait comme ça et où ça veut mener les gens, en fait. On essaye de leur expliquer que rien n'est anodin, que toute décision prévoit encore quelque chose derrière de pire pour nous, quoi. Il y a certains groupes qui ont des avocats, il y a certains groupes qui ont des économistes, fiscalistes. On a vraiment des groupes qui sont hétérogènes et avec toute représentation possible. Nous prendre pour des débiles, hein, on va dire ça comme ça, c'est très réducteur. Et on a vraiment ce ressenti-là d'être des laissés pour compte, en fait. Et on n'est pas des laissés pour compte, on est le peuple français. On doit pouvoir être décisionnaire de ce qui nous concerne, en fait. C'est nous, le peuple. Alors, je ne dis pas qu'on a les réponses à tout, mais on peut donner des orientations et leur proposer des choses. Et ils ne le prennent pas en considération. Et c'est ça qui est très décevant et qui est très frustrant.
Et alors là, moi, je vais vous lire la synthèse, hein, la synthèse de Villabé,
oui,
du rond-point de Villabé. Et ils m'ont donné mandat de venir porter cette parole à l'Assemblée des Assemblées. Voilà, vivre dignement de son travail. Une priorité, le pouvoir d'achat. Les mesures concrètes proposées, suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, indexation de tous les salaires et retraites rehaussées. Refonte radicale de la fiscalité, en particulier celle épargnant les ultra-riches pour les obliger à contribuer à la hauteur de leurs revenus. La préservation de notre pouvoir d'achat passe aussi par la préservation de nos services publics. Droit à la vie décente que l'État doit assurer à tous les citoyens. Aussi, nous revendiquons le rétablissement sur tout le territoire des services publics de proximité, l'arrêt des privatisations et l'interdiction de vendre ce qui relève du bien commun national.
C'est tout récent, ça. Hein?
En préambule, nous demandons solennellement l'armistice de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de nos citoyens agressés, confrontés à un déni de droit, de justice. Ensuite, la restauration de la souveraineté économique, sociale et politique implique une lutte décidée contre l'évasion fiscale, la suppression des cadeaux faits à la spéculation, le retour des masses monétaires vers l'économie réelle. In fine, le retour de la souveraineté monétaire. Voilà ce que nous avons appelé l'exercice de la démocratie directe. Ça, c'est la synthèse de Villabé que vous venez d'entendre. Et là, c'est tout le rond-point qui s'est assis et tout le monde a donné son avis. Même un petit bâton de parole, c'est-à-dire quand quelqu'un prend la parole, il dit « moi, je veux ceci, je veux ceci ».
C'est
la, la démocratie directe, c'est ce que nous voulons.
La
vous avez
c'est
vu
compliqué.
C'est quoi un petit bâton de parole?
Non, mais parce
celui qui a le bâton parle.
Et parle.
Les autres doivent se taire,
et écouter.
Il y a encore des rapporteurs ou des rapporteuses, désolé.
Oui, donc nous, on a discuté en fait comment on pouvait arriver à fédérer le mieux possible dans le
mouvement.
Bonjour
à tous, je m'appelle Salomé, je viens de Sainte-Marie. Désolée, je suis un peu stressée, il y a énormément de monde.
Les biens communs, eau, air, sol, droit à un environnement sain, ne doivent pas être transformés en marchandises. La taxe carbone est l'exemple parfait de la fausse écologie punitive qui cible les gens qui ne sont pas responsables. Or, il y a des responsables et des pollueurs à cibler directement par des actions coordonnées. Nous invitons le plus grand nombre à converger vers ce mouvement social écologiste populaire.
Je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans, je suis mère de 5 enfants, et accessoirement cariste pour un grand groupe français, conductrice de chariot élévateur. Avant, j'étais préparatrice en pharmacie, mais j'ai arrêté ce métier-là pour d'ordre praticité pour les enfants parce que les horaires ne correspondaient pas. Voilà.
Et là, vos horaires, c'est quoi?
De nuit, 23h, 6h20 le matin. La journée, ils sont à l'école, je dors. Enfin, dans notre organisation, ça a été la solution la plus plausible, on va dire. Non, c'est un métier alimentaire, hein, je veux dire, c'est un métier pratique pour ma vie quotidienne, mais non, c'est pas quelque chose qui me fait du bien, quoi, en tant qu'être humain. Mais bon, après, il faut bien travailler, hein, parce que c'est un métier d'homme, parce que bon, je fais 1m64, 60 kilos, je suis pas épaisse, quoi. Je suis au froid, enfin bon, je travaille à 2 degrés, produits frais. Avec les horaires de nuit, je tourne entre 1005 et 1006 suivant les mois, parce qu'on a des primes de productivité. On a un quota à tenir. Si on le tient, ben on a la prime. Si on ne le tient pas, ben on n'a pas la prime. Et après, des hommes qui font 1m80, 110 kg et qui ont une puissance musculaire plus importante que moi, ils sont plus rapides. Donc forcément, c'est plus facile pour eux. En fait, on stocke par notre chariot numéro 5. Chariot élévateur latéral, on l'a, nous personnellement.
C'est celui qui a enfoncé la porte du ministère, là, le transpalette?
Ah non, c'est pas le même. C'est ça, c'est un numéro 3, c'est pas tout à fait le même. Et après, on a ce que je vous disais, ce qu'on met en stock, en fait, mais au sol. Ça, c'est avec mes bras, oui. Je viens d'une famille où, de très jeune, on a toujours beaucoup discuté politique, problématique, socio-culturelle. Bien que je ne vienne pas d'une famille d'érudits, hein, parce que chez moi, il y a des aides-soignantes, il y a des chauffeurs routiers, les oncles, les grands-oncles, tout ça, ce sont des chauffeurs routiers. Donc, mais on a toujours eu une ouverture d'esprit sur tout ça. Et de très jeune, j'ai toujours été... Je crois que je suis née un peu révolutionnaire, en fait. Et j'ai une mère qui lisait beaucoup, qui avait une bibliothèque très large.
Qu'est-ce qu'elle faisait, elle?
Ma mère était soignante, de nuit aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je me suis orientée vers la nuit, moi. Je sais pas, peut-être c'est lié. Donc une maman qui lisait beaucoup. Et donc j'avais une bibliothèque avec un accès à la connaissance en général. Voilà.
Et donc quand vous avez vu ces gilets jaunes apparaître, vous vous êtes sentie concernée?
Alors, le premier jour, pas du tout. Parce que mon mari est venu, il m'a dit, bon, ben voilà, j'ai fait une réunion.
Il fait quoi, votre mari?
Mon mari, il est menuisier. Il a été salarié, il a été licencié au mois de novembre. Après son licenciement qui s'est très mal passé, dans des conditions un peu délicates, il avait besoin de s'investir dans quelque chose et il a eu contact avec des personnes de Luçon, là où on habite, qui mettaient en place le 17 novembre. Donc, il a été aux réunions qui se passaient sur le parking de Leclerc, Luçon. Et il vient, il me dit, bon ben voilà, 17, je vais à Saint-Hermine, on fait l'ouverture du péage. Mais pourquoi tu y vas? Ben, parce que tu comprends, le gazole, il a augmenté. Et là, moi, j'étais atterrée d'entendre pour le gazole. Parce que je me suis dit, non, mais attends, avant le gazole, il y a des choses bien plus importantes à régler à travailler, quoi. L'égalité économique, l'égalité sociale, l'égalité fiscale, la fraternité, enfin, retrouver les valeurs qui, sont pour moi, sont essentielles. Donc, pour les premiers jours, moi, je suis restée vraiment en observatrice, quoi. Et quand ça a pris une tournure plus ouverte vers ce que moi, il me semblait bon, j'ai décidé de me poser la question. Donc, j'ai participé à un premier rassemblement pacifique sur ma ville de Luçon, où on est 70 personnes à peu près. Et petit à petit, je suis rentrée dans la réflexion. Il y a un groupe en Vendée qui a été créé de réflexion. Et là, je me suis trouvée comme un poisson dans l'eau. C'était mon élément, quoi. Voilà. Pour eux, on n'est rien. Ça fait quelques années que ça commence, mais les discours de M. Macron n'ont fait que accentuer tout ça. Les gueux, les sans-dents, les réfractaires gaulois. Enfin, comment ils peuvent parler de leur peuple ? Parce que moi, j'avais une grande idée pour moi du président. C'est-à-dire qu'il représente tout un peuple. Et pour moi, c'était quelqu'un qui aime son peuple. Il l'apprend avec ses qualités et ses défauts, mais il est là pour le défendre, son peuple. Comment il peut parler comme ça d'un peuple qu'il est censé représenter ? Moi, je ne me verrais pas le droit de dire « Je suis Luçon, je suis délégué Luçon, je représente les têtes de compte de Luçon, même si je pense que certains en sont, ce n'est pas le sujet. »
Et vous, vous votiez avant ?
Je ne vote plus. Là, aux européennes, je ne voterai pas, non. Parce que je me dis que je suis contre un système. Et pour moi, voter, c'est rentrer dans ce système. Et aussi parce que je pense que les dés sont pipés. Donc pour moi, il n'y a aucun intérêt d'aller voter. C'est ma position personnelle. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont voter, et tant mieux. Le tout, c'est d'avoir un vote éclairé.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce mouvement ?
C'est le combat de ma vie. Voilà comment je le vois. C'est le combat de ma vie. Et si je ne l'aurais pas entamé, même si demain on doit perdre, entre guillemets, j'aurais le sentiment d'avoir fait tout ce qui était en ma capacité personnelle, parce que là je parle vraiment à mon nom, pour défendre mon prochain. J'ai pas de revendication personnelle à part faire un avenir meilleur pour nos enfants et pour tout le monde, pour les gens qui m'entourent. Je ne revendique pas les riches doivent tomber, les pauvres doivent... C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la lutte des classes doit s'arrêter. Tu es riche, tu es arrivé à avoir de l'argent, tant mieux, c'est très bien pour toi, mais c'est pas pour ça que tu dois accepter qu'il y ait des gens qui donnent leur vie à leur travail et leur santé et pour ne pas arriver à vivre au quotidien. C'est dramatique. Un être humain, il a besoin d'autres choses. Enfin, on ne peut pas se contenter d'obliger l'être humain. Alors, travaille, paye tes factures et c'est bon, ta vie, elle est faite. Non, ça ne s'arrête pas à ça. Un être humain, c'est bien plus complexe que ça. On a besoin de relations sociales, on a besoin de sortir, on a besoin de rêver, on a besoin de beauté, oui, de bonheur, d'amour. Et quand on est occupé 24 sur 24 dans des préoccupations d'intendance et de finances, on ne peut plus fonctionner. Ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous détruit. C'est comme quand on dit oui, quand on veut, on peut. Alors j'ai eu longtemps ce discours. Hein. Je l'ai eu jeune, je l'ai eu longtemps. Mais en fait, non, il y a des gens qui n'ont pas le je peux. Je veux, mais je peux pas, j'y arrive pas. C'est pas possible. Parce que c'est pas vrai. Parce que c'est vraiment une hérésie, quoi.
Et par rapport à vos enfants, vous pensez à eux quand vous allez sur votre rond-point ?
Oui, et je pense à eux parce que j'ai peur pour eux, pour leur avenir, mais pas que leur avenir professionnel. Mais moi, ce qui m'inquiète, pour reparler d'écologie, c'est est-ce qu'ils auront la possibilité, ne serait-ce que de vivre dans le futur ? Est-ce qu'ils vont pouvoir survivre à l'humanité ? Parce que pour nous, tout est lié. Le lobbying, les multinationales, le gouvernement et sa nouvelle politique, et les problèmes écologiques, tout est lié. C'est tout ça qu'il faut travailler. C'est vraiment une refonte de la société, en fait, je pense. Pour éveiller les gens, pour éveiller le monde, pour arriver à trouver des consensus qui peuvent... que tout le monde s'élève en même temps, en fait.
Donc, qui est pour cette proposition ? Levez le papier jaune, s'il vous plaît. Qui est contre cette proposition ? Levez le papier vert, s'il vous plaît. OK. Donc, la majorité vote jaune. Et c'était juste un test. Et on va retravailler ça. Merci.
Tout ce qui se passe dans le cadre de cette assemblée pour montrer que nous ne sommes pas des abrutis, casseurs, antisémites, que sais-je, mais aussi spécifiquement que nous sommes déterminés à lutter contre la répression en faisant valoir nos droits.
Et en même temps, on boycotte les grandes surfaces. Ça suffit d'aller acheter le pain de merde. Donc je vous encourage tous à faire un marché citoyen, vous rapprocher de vos producteurs locaux, de les mettre en avant, et c'est une façon déjà pour nous de mieux consommer. et une façon aussi de contrecarrer ces grandes surfaces qui se font de l'argent impunément.
Est-ce qu'on peut se positionner là-dessus, s'il vous plaît ?
Pour conclure, c'est un copain qui a résumé ça très bien. Tout le monde était d'accord sur cette formule. On croyait qu'on était parti pour un sprint et en fait, on est parti pour un marathon. Et donc, il faut se préparer durablement pour ça. Voilà.
D'où vous, monsieur ?
Du collectif Rungis en région parisienne. Je suis un mandat de délégué. Ça veut dire que je suis mandaté pour voter certaines décisions et travailler sur certains textes. Enfin, certains textes, certaines actions, certaines choses.
Comment vous vous appelez ?
Adèle.
Et vous avez quel âge ?
Bientôt 35 ans. Donc depuis le 17 novembre, c'est la première fois que je milite, que je participe à un combat social. Bon, moi, je fais encore partie de ceux qui se débrouillent pas trop mal et qui arrivent à joindre les deux bouts à la fin du mois. Mais je prends par exemple ma mère, elle est assistante maternelle. Elle travaille du lundi au vendredi, de 8h à 18h30, ce qui fait 52h30 par semaine. Si je lui fais pas les courses à partir du 15, eh ben, elle mange plus. Donc, je cautionne pas. Enfin, moi, ça me fait rire jaune, hein, quelque part. Parce que quand on dit les gens des banlieues, même tout à l'heure, on parlait en termes de stratégie. Oui, les habitants des quartiers populaires, je vais être un peu trivial hein, dans mon expression, mais quand les gens disent ça, moi, ça me donne l'impression qu'ils attendent juste des Noirs et des Arabes en survêt Lacoste et en Air Max qui vont tout casser. Eh ben non, j'ai grandi dans le 93. Je suis un pur produit du 93, je suis un pur enfant du 93. Et pourtant, je ne suis pas en survêt Lacoste, je ne suis pas en Air Max. Je n'ai pas eu la chance d'aller loin dans les études, mais pourtant, je m'exprime correctement. Même si je suis d'origine algérienne et je suis très fier de mes origines et du peuple algérien, surtout de ce qu'il fait en ce moment. Mais voilà, je suis quand même quelqu'un issu des quartiers populaires et je me mobilise pourtant. Et je ne suis pas le seul. Je fais partie du collectif de Rungis et 95% de ce collectif sont des gens issus des quartiers populaires. Ils revendiquent les choses de manière légitime, de manière pacifique, de manière honnête, de manière honorable. Et je dirais, les gilets jaunes, c'est un peu un microcosme de la société. Il y a de tout. Hein. Il y a du raciste, comme il y a de la personne ouverte sur le reste du monde. Il y a vraiment un vrai miroir de ce qu'est la France. Nous, on a démarré, on était un petit noyau d'une cinquantaine de personnes. Aujourd'hui, on a plus de 100 personnes. Au départ, on se retrouvait devant le marché de Rungis parce que c'est là où on a fait nos premières actions, c'est là qu'on s'est tous rencontrés et c'est là que le collectif s'est créé. Donc, on n'a pas d'endroit fixe. Et sinon, toutes les semaines, on fait une assemblée générale. Avec un ordre du jour, avec des choses qui en résultent, parfois des communiqués aussi qui en sortent. Mais on n'est pas là de gaieté de cœur, on n'est pas sorti le 17 novembre en se disant « on va se faire un kiff, tous les samedis on va aller manifester, toutes les semaines on va se retrouver en assemblée générale, une fois tous les deux mois ou tous les trois mois on va se retrouver à 400-500 km de Paris pour venir à l'Assemblée des Assemblées ». Donc oui, il y a une fatigue physique et morale. On aimerait que tout ça s'arrête, qu'on puisse reprendre une vie normale. Et on veut dire que on se bat, mais pas juste pour nous. Moi, je me bats pas pour mon cas personnel. Prends un exemple récent, Ford, qui prend 50 millions d'euros d'aide publique, qui fout 850 personnes sur le carreau au chômage. Pourtant, moi, je les connais pas, les salariés de Ford. Mais pourtant, moi, ça me donne des boutons de voir ça. Je suis rouge de rage, quoi. Et aujourd'hui, je pense que c'est le mouvement des Gilets jaunes. C'est le mouvement social qui se veut... fédérateur pour tous, donc c'est l'occasion maintenant de faire sortir tout le monde dans la rue une bonne fois pour toutes. Je pense que si on prend l'exemple de l'Algérie, c'est un exemple hyper frappant, hyper concret. Quand on a plus de 50% de la population qui est sortie dans la rue, il faut se rendre compte que même la police et l'armée se sont joués aux manifestants parce qu'ils se sont rendus compte que là, ils n'avaient plus de rapport de force. Quand on parle de justice fiscale, quand on parle de justice sociale, quand on parle de justice démocratique, étant issu des quartiers populaires, ça me parle d'autant plus parce que quelque part, nous, c'est ce qu'on subit. Hein. L'injustice sociale, on l'a subi depuis toujours. La répression policière, on l'a subi depuis toujours. La marginalisation démocratique, on l'a subi depuis toujours. L'exemple qui me vient en tête tout de suite, c'est 2005. À l'époque, j'étais très entre le travail et mes obligations à côté. Ça ne permet peut-être pas trop, mais j'étais rentré à l'époque chez McDonald's. J'étais manager chez McDonald's. Cette époque-là, en 2005, je me levais le matin pour aller travailler, contrôle de police. Je sortais du travail, j'étais éducateur sportif dans un club de foot, contrôle de police. Je sortais du club de foot, je rentrais chez moi, contrôle de police. Pour rien, contrôle de police. Enfin, bon, à un moment, je leur disais, mais je suis malade pour avoir un traitement homéopathique trois fois par jour comme ça. Ça devenait exagéré. Et donc, nous, on n'a pas besoin d'aller dans les manifestations. La répression, elle est toujours venue chez nous. Entre-temps, je suis rentré à la RATP comme conducteur de métro. Après, je suis parti vivre en Suisse pendant 3 ans. Et là, je suis revenu, je suis dans une filiale de la SNCF. Donc, les résultats des réformes Macron depuis 2014. Donc, en fait, aujourd'hui, la SNCF crée sa propre concurrence en créant des filiales privées qu'elle place sur des appels d'offres pour s'auto-concurrencer. Le but, c'est de faire le même boulot, mais moins cher.
on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
Alors moi je m'appelle Thérèse Benetro, voilà, j'ai 62 ans, je suis à la retraite depuis le mois de janvier et j'habite dans le Limousin. Moi je cultivais des petits fruits rouges, donc je me suis installée en myrtille. Donc bah maintenant, depuis que je suis en retraite, en fait je suis gilet jaune. Début janvier je me suis dit, ben, j'ai jamais manifesté ou très peu dans ma vie, les autres l'ont fait à ma place et aujourd'hui c'est à moi de faire aussi, de prendre du temps et de me consacrer à ce changement, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite pris ma voiture, fait l'opération escargot qu'on nous avait proposé à Limoges. J'ai été obligée de m'arrêter parce que ma voiture chauffait et derrière il y avait un tracteur avec une remorque à foin et du coup j'ai fait du stop et je suis montée sur la remorque. Donc on est arrivé à la préfecture, on était une quarantaine de personnes sur la remorque de foin. Alors déjà nous, là où on habite, on n'a pas de rond-point, donc on était déjà pénalisés, donc on n'a pas pu faire ça, mais on a fait
un stand. Vous êtes mis où alors ?
On a fait un stand sur la place, une fois par semaine au départ. Et puis
la place de votre village ?
Oui, oui, c'est une petite ville qui s'appelle Émoutiers, on est même sous préfecture quand même, hein, mais on a 2000 habitants, c'est petit. Le problème, c'est que quand on est en ruralité, tout le monde se connaît, et donc les opinions politiques, elles doivent être cachées. Et c'est très difficile, si vous voulez, de faire mettre un gilet jaune à quelqu'un, parce que le voisin va voir que vous mettez un gilet jaune ou que vous discutez avec les gilets jaunes. Et on a eu beaucoup de réticence par rapport à ça. On a bien discuté avec beaucoup de personnes qui sont dans le mouvement. Je pense qu'on est dans un temps de construction. Et donc c'est normal qu'il y ait peut-être moins de monde qui nous suive, parce que dans la construction, on ne peut pas avoir tout le monde. Mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être être beaucoup plus long qu'on l'imaginait, mais qui ne lâchera pas, parce qu'on a des gens qui sont déterminés, parce que la répression a été tellement violente que ça a cristallisé des colères. Et ce que les gens ont vécu depuis le mois de novembre dans les gilets jaunes, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui ou ceux qui ne sont plus physiquement présents dans nos assemblées, ça restera toujours dans leur mémoire. Et puis, c'est des forces latentes qui sont, à mon avis, prêtes à revenir. Donc c'est un mouvement qui n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. No focus lost, I concentrate, you tell you got it wrong. People opposition, I said we up on the level up. My name is Neymar, and you know I'm the number. There is no competition. I'm gonna talk and you're gonna listen. I'm on 10 like man, even better than them. Yeah, I don't need fucking suck a German cause then. My third eye's open and my focus ain't joking. Yeah, you get it wrong, cause my focus is so strong. C'était l'Assemblée des Gilets jaunes, un reportage à Saint-Nazaire de Martine Abbat, réalisé par Clémence Grosse. Merci à Sophie, Pierre, Steven, Denis, Thérèse, Adèle, Camille, Céline, Ludovic, Emmanuel Gras et Antares Bassis. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire. Yeah,